bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct, en live et en public de Conchandouche à l'occasion du festival ADK. À l'occasion, oh là là, c'est, en fait on s'entend pas, c'est bien pour ça qu'il va falloir qu'on gère ce petit truc, je crois. Et bon, on va le faire comme ça. Donc nous sommes en direct en live en public de Conchandouche et plus précisément au château de Quesnay à l'occasion de cette deuxième édition du festival Different Kind ADK, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu, pour une programmation de fête en fait, on va dire. Il y a quelques instants sur cette scène, nous assistions au concert d'Olivier Rocabois. Nous aurons Johan Asherton, Brisa Rocher, Grant Lee Phillips et The Ravonettes au programme sur scène. Nous, du côté de la radio, eh ben, on va vous faire vivre ça du mieux que nous le pourrons, c'est-à-dire plutôt pas mal en principe. Et pour nous accompagner sur cette aventure radiophonique, c'est pas moins d'une équipe de choc que nous avons prévue, à savoir l'ami Trémolo, l'ami Pickup, c'est Thibaut qui sera avec nous également, Lily aux manettes, c'est Vinci qui est également dans la place, qui j'oublie, ça y est sur mes doigts, j'ai pas tout le monde. Audrey. En tout cas, Audrey, voilà, à la traduction, parce que notre niveau d'anglais, Damien, laisse forcément rêver tout le monde.
Pourtant, you're making progress, hein. You have said different kind perfectly.
D'accord. Et en tout cas, voilà, on aura quand même l'appui d'Audrey hein, pour nous traduire ces choses en anglais. Et Damien, c'est toi également ouais. Que nous retrouverons à nos micros.
Bonsoir. Ouais.
J'ai jamais rien entendu dans ces bruits forts.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Et vous l'avez compris, hein, mi auditeur auditrice, nous sommes en direct hein, du domaine de Quesnay. Proche de Conches, même j'ai envie de dire accolé à la ville de Conches-en-Ouche. Nous sommes donc à une quinzaine, 20 kilomètres d'Évreux et vous avez encore la possibilité voilà, de réagir et de vous dire bah tiens, on n'avait encore rien prévu en cette fin de journée, bah pourquoi pas aller la rejoindre et découvrir cette prog intéressante, pertinente, surprenante presque on pourrait dire. Et on va prendre le temps d'en parler justement avec le programmateur. Sachez, et vous l'avez vu, hein, vous avez sorti la tête de vos véhicules ou de vos maisons, il fait beau. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Bonjour à toi, Vincent Rouen.
Bonjour à toutes et à tous.
Vincent, je crois que c'est déjà la première belle surprise et agréable surprise, le temps.
Mais on en était absolument persuadé, tu sais. Oh. Voilà, une semaine absolument pourrie, ça pouvait absolument être merveilleux ce soir. Non, non, on en était sûr.
Ouais, le site est incroyable, Vincent. Moi, je tiens à le préciser parce que je n'étais pas là. Je n'avais pas eu le plaisir d'être là à la première édition parce qu'on parle bel et bien.
Et t'as manqué quelque chose.
D'une seconde édition.
Et
c'est,
fait.
Et c'est pour ça que je me rattrape aujourd'hui parce que le spot est incroyable.
Oui, vraiment, le lieu est absolument superbe. Donc,
on peut décrire un petit peu, s'il te plaît, Vincent, justement.
Bah, écoute, là, on est dans une allée forestière qui est inondée de soleil, avec une scène qui a cette particularité d'être ouverte sur le château, ce qui n'est pas quelque chose de très fréquent. L'année dernière, on avait eu des images absolument merveilleuses, parce que vous allez voir, et en effet, il faut venir nous rejoindre le plus possible. Avec le light show qui est prévu, le château est totalement illuminé, et on le voit à travers la scène, derrière les musiciens. C'est un endroit absolument superbe.
Oui, c'est pas un fond incrustation numérique. Absolument pas, c'est bel et bien un fond de scène incroyable. Et donc on découvre que, alors moi j'étais pas là l'année dernière encore une fois, pardon, il est illuminé d'une certaine manière pour l'événement ou à l'année ainsi.
Non, uniquement pour l'événement. C'est la technique, notre merveilleuse équipe technique qui nous fait une illumination absolument splendide du château pour le festival.
Une forme de mapping ou un éclairage et des spots lumineux qui vont s'inverser ou ça va être quelque chose de
figé. Je dois t'avouer que techniquement je suis pas en mesure véritablement
la lumière,
de te répondre,
Damien.
Mais voilà, non, c'est vraiment un light show, quoi. Voilà, tout simplement.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce château qui a été rénové il y a très peu de temps d'ailleurs, qui est magnifique derrière cette scène, qui fait un très beau
et les musiciens adorent y venir parce que justement, la plupart d'entre eux sont hébergés dans le château. C'est vraiment la vie de château pour eux.
Ah ben, nous, non. Tiens, c'est bizarre ça. Nous, non, on n'est pas hébergés dedans.
On n'est pas des artistes.
Non, du coup, je voulais savoir quelle est un petit peu l'histoire de ce château. On dit le château de Quesnay parce que le gars qui y vivait, c'était Quesnay. T'en sais rien du tout, c'est ça.
Non, c'est absolument
ah non, c'est dommage. Moi, je voulais faire un petit
patrimoine. Je croyais que t'allais me parler de la programmation. information, mais non.
On va en parler aussi.
Le château, non, je ne connais pas son histoire. Je pense qu'il y a quelques interlocuteurs qui pourraient vous en parler mieux que moi. Je ne sais pas si vous avez prévu de recevoir Jérôme, par exemple.
Alors là, pour le moment, on avance dans les trucs, mais ça va devenir notre enquête. Qui est ce château, mais quelle est l'histoire de ce château? Ça va être une de nos enquêtes. Voilà, ça va faire un fil rouge sur cette émission.
Allez, Vincent veut qu'on parle de la programmation. Et bien
sûr, on voulait
le faire, Vincent. Tu es le programmateur de cet événement. Même si on te voit courir un peu partout, prendre le temps de parler avec les bénévoles. On va y revenir aussi sur les équipes qui t'entourent et t'accompagnent. Vincent, une deuxième édition avec une couleur très marquée. On a pour habitude chez Principe Actif de pouvoir se balader, de crapahuter d'un événement à un autre. Parfois c'est éclectique, parfois ça a une couleur avec des petites pointes un peu extérieures. Là, on a quand même la sensation, et c'est à toi de me confirmer ou de me reprendre, qu'il y a une couleur qui s'en dégage.
Tout à fait.
Vincent,
c'est une volonté.
Ouais, je croyais savoir la réponse. Comment ça se fait? C'est lié à ton histoire avec la musique? C'est lié à tes goûts? C'est lié au... Il y a un comité, si je ne m'abuse, je sais pour avoir entendu la conférence de presse que tu soumettais à monsieur le maire.
Exactement.
Qui a quand même une bonne oreille musicale, il semble, mais à qui tu fais découvrir beaucoup de choses. C'est une volonté claire, identifiée, de vouloir essayer de dégager quelque chose de la programmation.
Voilà, exactement. Et tu as bien fait de rappeler que c'était avec Jérôme Pascaud qu'on a fondé ce festival. Et dès le début, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a appelé Different Kind of Festival, Different Kind, quelque chose de différent. On a voulu faire une programmation qui avait une couleur extrêmement... Je sais pas, là, on est des stars. Une couleur qui était extrêmement particulière. Sur un format un petit peu quand même pop, folk, blues, americana. Voilà, pour cerner un petit peu musicalement, mais on voulait que ça soit accessible à tout public. On aurait pu programmer du hardcore, on aurait pu programmer du hard rock, on avait ça dans nos contacts aussi, mais on n'avait pas du tout envie de ce genre de couleur pour le festival. On voulait que ça soit vraiment accessible à tous, et surtout, on avait une envie folle de faire découvrir des artistes qu'on aime et justement dont on partage l'amour avec Jérôme Pascaud.
Ça veut dire que là, tu as toute la discographie en CD, album, vinyle de tout ce qu'on va voir ce soir, et peut-être même pour certains des cassettes.
Absolument tout.
Ouais.
D'ailleurs, dans mon bureau, tout est là. Si tu veux venir voir tout
est archivé. À l'heure,
on a tous les vinyles, tous les CD qui sont là. Oui, bien sûr, non. C'est important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, on est des fans. C'est un festival de fans. Voilà, c'est pas un festival pour faire de l'argent. On a vraiment envie de faire découvrir une musique. Olivier Rocabois, y a pas grand monde qui connaît. Nous, on a découvert ça, on est tombé complètement amoureux de lui, on avait envie de lui donner un éclairage et on espère que le public qui vient ici, justement, va être surpris, découvrir des choses dont il n'avait jamais entendu parler et se dire « Ah, fantastique !»
Je confirme, Olivier Rocabois, je ne connaissais absolument pas. On l'avait découvert lors de la conférence de presse qui s'était déroulée à la salle Jean-Pierre Bacri il y a 2-3 mois de cela. Mais plus encore, il a ouvert le bal et de si belle manière.
C'est fantastique. Donc,
le choix était pertinent, très juste. Nous, il se trouve que, amis auditeurs, auditrices, la scène, enfin plutôt le studio radio, le plateau radio se trouve quasiment en angle à 60 degrés de la scène. On a vécu la chose, il s'y prêtait parfaitement. Ça pop un peu envoûtante, souriante,
baroque,
mais aussi, j'ai envie de dire, charmeuse.
Et lui aussi est un grand charmeur.
D'accord, mais elle collait complètement à une ouverture festival. Là, dans l'ordre aussi de passage, c'était bien senti de le mettre en premier.
Ah oui, tout à fait. Enfin, merci.
Il y a eu réflexion.
C'est gentil de le dire, mais
oui,
bien sûr. On met pas les artistes dans n'importe quel ordre.
Parce qu'ils peuvent aussi avoir des exigences parfois.
Oui, c'est arrivé l'année dernière et on a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Là, tout a très bien roulé. Et en effet, le but de la soirée, c'est de progresser. Lentement vers l'apothéose avec les Ravionettes qui vont arriver vers 23h45 et qui font leur date unique en France. Il faut quand même le savoir. Hein. Ils
D'accord.
étaient à Berlin, ils repartent à Athènes, etc. Et la seule date en France des Ravionettes, quand même un groupe légendaire, c'est Conchandouche. C'est plutôt pas mal.
Ça en imprime. Là, on a ouvert donc avec Olivier Rocabois. Pardon, JC. On enchaîne avec qui là après notre plateau radio?
Alors là, on va enchaîner avec Johanna Sherton. Qui va d'ailleurs faire un petit line check là dans quelques temps. On voit qu'il s'installe sur scène. Donc Johan,
il est indiqué le plus régional de l'étape.
Exactement, Johan et toute son équipe habitent à Rouen, en Normandie, quelques-uns en Basse-Normandie. Mais voilà, oui, ils sont basés en Normandie et tu fais bien encore une fois de dire ça parce que le but, bien sûr, c'est de faire découvrir des gens, mais aussi de donner un écho à des formations locales. L'année dernière, on avait Gene Clarkville, par exemple, qui était là. On avait Johnny and Rose, qui sont basés à Rouen également. Donc là, on a Johanna Sherton et toute son équipe, des merveilleux musiciens, qui sont Stéphane Dambry, Loïc Collère, etc., qui sont rouennais depuis depuis des décennies.
Alors, on peut comment le préciser, le qualifier en quelques mots, très cher Vincent, profiter de toi, le programmateur.
Eh ben écoute, pour connaître, on va prendre un mélange entre Nick Drake, T-Rex et Bob Dylan.
Merci.
Voilà, voilà. Donc une pop très, une folk pop rock très très mélodique, une voix absolument superbe qui fait penser, voilà, j'aurais dû citer aussi Leonard Cohen. Voilà, entre Leonard Cohen et Nick Drake notamment.
Ça donne très envie. Il jouera, si tout se passe bien, vers je me tourne vers l'affiche là-bas au loin. Ah, on a l'horaire ici sous les yeux, merci. C'est 19h15.
Voilà, 19h15, tout à fait.
On aura ensuite
à quelqu'un d'exceptionnel.
Alors j'allais dire un sacré personnage, parce
incroyable.
Que je ne connaissais pas véritablement. Je me suis un peu penché sur elle, Brisa Rocher.
Tout à fait.
Un incroyable, j'ai envie de dire, personnage qui produit, qui va dans tous les sens, qui a l'air d'être une bourreau de travail. Je ne sais pas comment on dit au féminin. Pardon, vous me retrouverez. Quel personnage cette Brisa Rocher?
Oui, parce que non seulement elle est musicienne, elle aborde des styles totalement différents avec un univers totalement cohérent, mais c'est aussi une poétesse. Elle écrit aussi des histoires pour enfants, elle est productrice, elle a un label, c'est une femme absolument merveilleuse, une personnalité vraiment géniale.
Elle collabore avec milliards d'artistes,
voilà,
elle ressort.
Elle a fait du reggae avec Boston Beam, elle a fait du post-punk avec Super 8, etc. Elle a fait du jazz. Et on dit comme ça, on a l'impression que voilà, c'est très éclectique. Et en fait, c'est totalement cohérent. Elle a un univers à elle, une voix absolument fantastique. Et là, je pense que ça va être une grosse claque, une grosse découverte pour une grande partie du public.
C'est parti pour, elle officiera à 20h45. Ensuite, on a un peu... j'ai envie de dire une forme de légende. Est-ce que c'est un terme adapté?
Mais totalement. C'est ce qu'on appelle. Alors, dans notre programmation, on a toujours voulu avoir un artiste culte international. Ce qu'on appelle un artiste culte, c'est un artiste qui a un following partout dans le monde. N'importe où où il aille. L'année dernière, on avait Robin Hitchcock. N'importe où ces gens-là vont, ils vont remplir une salle dans la capitale du pays. Mais voilà, peu de gens les connaissent finalement. Ils ont un following international, ce sont des artistes cultes, mais ils ne vendent pas des millions de disques non plus. Et là, on a la chance d'avoir Grantley Phillips, qui est l'ancien leader de Grantley Buffalo. Tout le monde doit avoir en mémoire, en tout cas ceux qui étaient nés au début des années 90, un tube planétaire qui s'appelait Fuzzy. Normalement, il va le jouer. Il le joue à chaque concert, vers la fin du concert. Voilà,
il viendra défendre un nouvel album c'est All That You Can Dream.
Exactement.
J'ai bien dit.
All That You Can Dream.
Voilà, qu'il aurait écrit pendant la pandémie.
Exactement, ouais, tout à fait.
On lui posera quelques questions à ce sujet. On devrait l'avoir au micro. On l'a pas précisé, hein, JC, mais la majorité de ces artistes, nous les aurons au micro sur l'antenne de Principe Actif. Et puis on finira donc avec un duo improbable, des Danois.
C'est un duo. À la base,
oui.
Mais là, ils sont en large formation.
À la conférence de presse, il y avait question de savoir s'ils allaient être en petit ou en large band.
Voilà, donc là, ils sont en quatuor. Donc, on a deux guitares, une basse, une batterie.
Les Ravionettes,
en effet. Voilà.
Ton accent est meilleur. Et là, comment on peut le préciser, comment on peut l'indiquer, comment on peut donner quelques indices ou ingrédients?
Écoute, donc déjà, c'est un duo danois à la base. Ils sont installés pendant longtemps aux États-Unis. Là, il est question qu'ils reviennent. Tiens, voilà, Brisa Rocher qui passe. Il est question qu'ils reviennent justement basés au Danemark. Et là, ils refont une tournée internationale. Encore une fois, comme Grantley Phillips, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, oui, mais date unique en France. Et leur musique, eh bien, écoute, elle est extrêmement pop, mais en même temps avec un côté très dur, des guitares qui sont totalement héritées du Velvet Underground. Mais les mélodies, on pourrait presque croire que c'est de la soul de Supremes. Donc c'est un mélange absolument incroyable, à la fois très rock'n'roll. Ça va être beaucoup plus rock'n'roll que tout le reste de la programmation. C'est comme l'année dernière, on avait Little Bob qui assurait cette partie vraiment rock'n'roll de la programmation. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'Italie, là par exemple, pour voir les Ravionettes ce soir. On a eu des réservations d'un peu partout. C'est encore une fois un groupe culte. Et franchement, j'invite tout le public à venir découvrir ça parce que c'est quand même assez exceptionnel. Le seul bémol, c'est que les pauvres, hier, ils étaient à Berlin et ils ont eu une intoxication alimentaire. Malheureusement, ils ne sont pas en grande forme. Mais voilà, ils vont tout donner pour le festival. Mais ils sont adorables en plus.
Ouais, comme quoi la choucroute, hein, c'est pas toujours bon tous les jours, hein, mes auditeurs, auditrices, faut vous méfier. Hein, comme on... Pareil, hein, sur le houblon allemand, ils ont beaucoup de qualité, hein, nos cousins germaniques, mais parfois, voilà, hein, c'est une intoxication qui peut être un abus ou un quelque chose qui est mal passé. Bref, Vincent, ton histoire avec la musique, elle est longue. Oui, tu as dit, tu es un érudit, tu es un passionné de la musique, mais...
Je crois que c'est un peu prétentieux.
Mais tu es en tout cas à avoir toujours essayé de promotionner, de relever, d'organiser. C'est nouveau pour toi quand même d'organiser un festival en extérieur, parce que tu as eu des liens dans le temps à Rouen. Je t'ai eu hors micro à te poser la question, mais c'était quoi le lien avec les Ossettes? Et tu me disais, ben non, en fait, avec les Ossettes, j'ai fait présentation de groupe, mais je travaillais dans une radio en fait. Voilà. Donc en fait, tu donnais quelques quand même conseils ou tu proposais quelques sûrement formations à ces salles.
Oui, et puis en termes de programmation, j'ai programmé les concerts de la salle Louis Jouvet à Rouen de la fin des années 80 au début des années 90. Mais par contre, tu as entièrement raison pour le festival en plein air, même si à une époque avec Radio FMR à laquelle j'appartenais, on avait travaillé avec le rock dans tous ses états. Voilà, donc fin, toujours même période, hein, fin des années 80, début des années 90, mais on n'était pas programmateur. Voilà, on accompagnait le festival, on faisait comme vous, on faisait des émissions en direct, mais en termes de programmation, véritablement, à part quelques événements ponctuels, c'était vraiment la salle Louis Jouvet à Rouen. Mais mon passé, il est surtout radiophonique.
Ben oui, et ben du coup, là, on est dans un festival extérieur, dans un cadre splendide, ouais, avec 5 groupes sur la journée. C'est quand même pas du tout la même approche, Vincent. Il y a à la fois, on le voit, beaucoup de plaisir, mais il y a forcément quelques pointes d'appréhension et de stress, normalement. Ouais. Là, justement, vu que les premières notes se sont déroulées et que derrière, il y a déjà un peu de monde dans cet espace, t'es plutôt satisfait, ça prend bien. C'est quoi les premières sensations?
Alors, j'ai envie de te dire exactement comme l'année dernière, on est parti pour une réussite artistique. Voilà, véritablement, bon, les formations que je programme, je les connais, je les ai vues sur scène, beaucoup d'entre eux sont des amis, etc. Je sais ce qu'ils valent artistiquement, mais là, tout le monde est motivé. Véritablement, on va avoir des prestations de grande qualité. En termes d'accueil, on s'est mis en quatre. Voilà, les artistes sont très bien accueillis. Je pense que le public, lui aussi, se sent bien accueilli. Comme tu le disais, l'endroit est superbe. Il y a aussi tout le village autour, hein, donc faut parler de ça aussi, parce qu'il n'y a pas que la programmation musicale. Donc ça aussi, c'est une réussite. Voilà. Après, il fait très beau. Enfin, c'est un peu froid, mais il fait très beau. Et il ne nous reste plus qu'à avoir le public. Là, ça se peuple gentiment. On espère que ce format que l'on propose va séduire. Voilà, on a malheureusement ce soir, il y a beaucoup de choses. Hein, on est sur une date où il y a énormément d'événements. Il y a Bruce Springsteen qui joue ce soir à Paris.
Le boss.
Voilà, on sait qu'on a beaucoup de public qui dit ah oui, mais c'est le soir de Bruce Springsteen, etc. Bon, voilà. Il n'y a pas de date idéale.
Jamais.
Mais là, pour l'instant, les choses s'alignent vraiment très très bien. Et ça, c'est
Vincent,
super.
T'inquiète pas, on a prévu, hein, on est en équipe nombreuse justement pour aller vers les stands, vers le village, vers les food trucks aussi bien, parce qu'on peut se nourrir, on peut se restaurer, on peut boire local aussi sur le site. Bref, on peut vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Il y a encore des places possibles à l'entrée. N'hésitez pas à vous rapprocher de cet espace. C'est le domaine de Quesnay, hein. Si vous venez en route d'Evreux, c'est avant de rentrer à Conches, à droite. C'est pas compliqué. 500 mètres avant Conches, à droite, domaine de Quesnay. Il y a des petits panneaux, c'est balisé. Et on voit bien, il y a un parking qui est bien établi, un peu plus en contrebas. Et on marche un petit peu. Et on profite de cette allée splendide qui arrive sur la Seine. On ne peut pas la louper. C'est magnifique même déjà de vivre et de vibrer à travers cette image qu'on a en déambulant et en marchant le long de cette allée. Merci Vincent pour éclairage sur la programmation. On va se permettre justement de recevoir Brisa Rocher dans un instant pour tout de suite prendre le temps et le pouls avec l'un des artistes à l'affiche de ce festival. Merci beaucoup.
Merci
Vincent Breuil, programmateur, on le rappelle, de A Different Kind Second Edition, avec mon accent vilain. Je t'en prie, pose ton micro. Qu'est-ce qu'on fait? On a une pause musicale? Oui, et ben voilà, on fait signe dans les studios. Rue Cognac, il y a un morceau qui va passer. Bah, Brisa Rocher, forcément, puisqu'on va l'avoir en plateau juste derrière. Et on est bien sur antenne de Principe Actif et on est bien en direct de A Different Kind, deuxième édition, domaine de Quesnay à Conches. Your scepter, your court, your heart, your powder. Your beauty mark, your gold. Risa Rocher avec le morceau Say It.
Principe Actif, le mix des cultures.
Bonsoir, bonjour, Brisa Rocher, à cet horaire, je ne sais pas ce qu'on dit.
Bonsoir, on dit bonsoir.
On dit bonsoir. Merci aussi de nous offrir cette chance d'échanger en français, ce sera pour moi beaucoup plus simple. Puisque j'ai l'honneur d'avoir quand même un membre de ma famille qui va faire la traduction ce soir, ce qui est nouveau pour moi. Mais c'est vrai que c'est tellement plus agréable de pouvoir évoluer dans cette langue que je maîtrise un petit peu mieux. Brisa, petite anecdote d'ailleurs, on vient d'écouter un morceau là à l'instant, Say It, que je te demandais si c'était un morceau récent de ta si productive carrière et riche carrière, même si je suis sûr qu'elle est loin d'être terminée, avoir déjà ta nature à proposer tant de choses.
Oui.
C'est un morceau qui est un petit peu particulier, pourquoi ?
En fait, cet album, je l'ai sorti sur mon label, donc Black Ash, tout à fait. En avril, et c'est un album que j'ai fait il y a 11 ans. Et c'est un album électropop avec un petit aspect soul, je dirais, un aspect un peu James Blake aussi, qui n'a jamais trouvé son moment ni ses partenaires pour sortir. Et là, j'avais le temps de le sortir moi-même sur mon label, donc je l'ai fait. Il y avait des clips, il y avait 3 clips, et il y a un morceau qui a fini sur une série Netflix, sur le truc Notre-Dame. Qui brûle ou je sais pas quoi, et j'ai trouvé que c'était le moment de le sortir. Et c'est drôle parce que je reçois des retours disant waouh, tu as enfin, c'est l'album de la maturité et tout. Je suis là, je l'ai fait il y a 11 ans, donc
c'est comment dire,
mais à la fois ce qu'on entend, je pense, c'est je l'ai fait, ma fille a 12 ans et demi, donc je l'ai fait quand elle était bébé. Je pense qu'on entend bien cette douceur parce que je l'ai enregistré à la maison,
d'accord,
cette douceur et cet aspect un peu. Émotif, introspectif, douceur, c'est berçant cet album.
Merci en tout cas pour cette explication de texte. Tu es forte de 9 albums, tu écris, tu es autrice, tu composes, tu produis, tu interprètes. Est-ce que dans cet éventail qui te caractérise, il y a tout de même quelque chose que tu préfères faire ? Ou est-ce qu'à l'inverse, tout est nécessaire selon toi?
Bon, en fait, par nature, j'écris. J'écris en anglais, je suis assez littéraire. Donc l'écriture en anglais m'est essentielle. Maintenant, ce n'est pas forcément dans les chansons que je dois écrire. Mais écrire des textes, quand même, ça m'éclate. Même parfois, j'écris pour des Français qui écrivent en yaourt. Et après, je retraduis leur yaourt en anglais. Ça aussi, ça m'éclate. Faire des adaptations en rap de français à anglais, ça m'éclate. J'adore le rythme, l'accent sur les syllabes m'obsède. Donc c'est vrai que écrire des textes de chansons touche à cette obsession. À part ça, ce que j'adore, c'est le top line, écrire le top line. Donc pour les gens qui ne savent pas, le top line, c'est la mélodie vocale qui est sur une musique. Et j'ai une particularité, quand je n'écris pas la partie instrumentale moi-même, quand je reçois un instrumental, j'écoute que 10 secondes, j'arrête, j'écris tout le texte et après j'enregistre. Et 95% des temps, j'aurais écrit la bonne quantité de texte pour la durée du morceau sans l'avoir écouté. Et aussi, je trouve qu'il y a une fraîcheur dans le top line quand tu le chantes aux premières écoutes qui n'est pas pareil qu'aux deuxièmes écoutes. Ça ne veut pas dire que la première prise est bonne, mais si tu fais référence à cette première prise, tu trouves des petites choses qui sont toujours fraîches dedans. Et là, ma troisième réponse, c'est quand je chante des morceaux que je n'ai pas écrits, j'ai plus de liberté d'improvisation. Et ça me plaît. C'est pour ça que je n'ai jamais fini mon amour pour le jazz et les standards de jazz, parce que même quand j'écris des morceaux qui ressemblent à des standards de jazz, j'ai moins de liberté que quand je les ai pas écrits, parce que je ne suis pas obligée de montrer la mélodie. Et la mélodie existe, il est dans le monde, tout le monde le connaît, et du coup je peux le casser, voler autour, et en plus il y a une émotion et une histoire auquel je pense, parce que bon, les mots sont en anglais, je comprends l'émotion et l'histoire, je fais référence à mes histoires qui ont cette émotion, Et là, du coup, je voyage dans l'émotion et avec la liberté de ne pas devoir montrer la mélodie que j'aurais écrite laborieusement ou pas, mais en tout cas qui n'existait pas avant.
Donc, ça veut dire que si tu évoquais le fait de rajouter des paroles sur quelque chose qui était en yaourt pour certains artistes français, ça veut dire que tu leur proposes un texte complètement ou ils ont déjà un petit peu...
Non, en fait, un yaourt, c'est... chez les Français, ils chantent sur leurs morceaux, mais ils chantent avec les sons qu'ils trouvent américains ou anglais. Donc, parfois, il y a un vrai mot qui sort. Parfois, c'est des sons... ils répètent souvent les mêmes genres de petits mots, mais il y a quand même quelques mots qui ont un sens et il y a souvent un rime ou un appui syllabique. Donc moi, je reste fidèle au rime, je reste fidèle à l'appui syllabique. Et si j'entends des mots qui ont un vrai sens ou qui sont évocateurs, je les garde. Et je reste aussi fidèle à l'histoire et à l'émotion qui est présente dans ce yaourt qui n'a pas de sens. Mais je garde le peu de sens qu'il y a ou le sens que je ressens. Et je le construis poétiquement en anglais avec un sens et un poétisme, mais qui va dans le sens du yaourt.
Brisa, tu collabores avec bon nombre d'artistes. Tu travailles sur énormément de projets. Certains prennent justement, et tu l'as brièvement évoqué, mais je m'étais posé cette question-là.
La direction... J'entends pas super bien.
On va te trouver un casque.
Ah oui,
merci JC. Alors, tu vas nous dire si le volume est correct. Est-ce que là, tu m'entends bien ? Un peu plus fort, on va te plus donner fort. Ça. Est-ce
oui,
que là,
voilà.
Ça va ? Pardon,
Lisa.
Je disais, pardon pour les auditeurs, me répéter, tu collabores avec nombreux artistes. Là, c'est parce qu'il y a un petit line check qui se passe à côté de nous. Sur beaucoup de projets,
oui.
Tu travailles et tu as donc des morceaux qui prennent parfois une direction auquel tu ne t'attends pas. Comme là, tu l'évoquais tout à l'heure, un morceau qui va prendre la direction d'une série sur Netflix. Tu as des morceaux aussi qui ont pris la direction du monde publicitaire. Est-ce que premièrement, ce sont des commandes, ce sont des créations ? Est-ce que inversement, ce sont des morceaux qui étaient de ton répertoire qu'on t'a demandé qu'on pouvait prendre ? Et derrière cela, il y a une deuxième question, s'il te plaît. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est confortable ? Ou est-ce que inversement, c'est un petit peu sincèrement alimentaire financièrement pour te permettre justement une vraie liberté sur ton travail plus personnel ? Bref, est-ce que non, ça te fait plaisir, c'est agréable ou non, ça te permet de bosser à côté, d'être bien.
J'ai eu les trois cadres, j'ai pas eu 50 000 pubs malheureusement, j'aimerais bien, mais j'en ai eu une pub qui était un morceau qui existait déjà, deux pubs qui étaient comme ça. J'ai eu aussi des pubs où on avait fait des morceaux exprès pour essayer d'aller chez des pubs, et puis j'ai fait aussi des réponses aux briefs de pubs. Tout ça me plaît. En fait, il y a plein d'albums qui ne sont pas encore sortis, que j'ai fait, qui vont dans les sens encore différents, parfois très expérimental et parfois très mainstream. Je peux aimer faire de la pop, rapper, faire du R&B, faire du CR. En fait, j'adore le puzzle du top line et de changer ma voix pour des choses comme ça qui peuvent être commerciales, mais qui pour moi sont fun. Juste comme j'adore aussi faire des choses complètement expérimentales qui ne changent pas d'accord et qui n'ont pas de rythme et qui ont des textes inflammatoires et plein de voix, etc. En fait, il n'y a rien qui m'agresse dans le travail.
Ça veut dire que pour toi, Brisa, la musique est une grande famille qui n'a pas à être compartimentée. Et ce n'est pas financièrement que tu es intéressé, mais bel et bien, tu as envie, et c'est stimulant, de pouvoir te laisser aller dans toutes tes envies et tes vibrations, alors.
Non, je dirais pas exactement ça. Je dirais que ma créativité et l'acte de travailler me plaît. Ce monde-là, j'aime. Maintenant, si je pouvais être sûr d'alimenter mes albums qui sont plus indie et qui aura plus d'allure indie intellectuelle cool, qui ne veut pas être cool, moi je veux être cool. Si je pouvais alimenter ça par des pubs qui rentraient à l'autre côté, je le ferais comme ça. Malheureusement, n'y a aucune certitude que rien ne marche. Je peux essayer d'avoir des pubs du matin au soir sans jamais en avoir. Je peux aussi faire des projets indie qui sont très pointus, fabuleux et qui ne sortent jamais. Donc en fait, moi je fais ce qui me vient et je suis américaine. Je crois dans le travail, la souffrance, la concentration. Je fais tout et j'aime le travail. Mais bon, je souffre comme toutes les artistes du fait que je ne sais pas comment gagner ma vie. De temps en temps, il y a un truc qui me fait gagner de l'argent. Je ne sais jamais ce que ça va être. Donc,
tu ne t'interdis rien.
Je m'interdis rien et je fais tout. Je m'interdis d'interdire des choses, quoi.
C'est bon, c'est bien. Mais non, mais je suis content d'entendre ça. C'était une vraie question. Donc on l'a entendu. Hein, tu es un pour moi. Tu sembles être une grosse travailleuse, d'ailleurs tu viens de l'évoquer. On n'a pas fait tant d'albums, tant de collaborations, tant de productions. Si on ne l'est pas, ça tombe pas du ciel. On travaille, tu la preuve, hein. Tu racontes qu'il y a encore des albums qui sortent aujourd'hui, qui sont des œuvres réalisées il y a des années, des années. Tu as sous-entendu aussi dans une réponse que tu en avais déjà plein en stock qui dorment. Tu as quand même été signé sur un label incroyable, prestigieux, le label Blue Note. Déjà une simple question, ce label, tu es toujours en lien avec eux? Il y a toujours des éditions? Ou alors la création de ton label Black H, ça a été la suite parce qu'à un moment donné, c'était stop le Blue Note?
De toute façon, donc Blue Note, soyons clairs, Blue Note, ça faisait partie des EMI. Comme Capitol était aussi chez EMI, etc. J'ai fait mon premier album là-bas. Après, c'était rien. Il n'y avait aucun lien. Je n'ai même pas la main sur cet album. Je n'ai aucun contact avec ces gens-là. Ouais. Après, j'ai expérimenté toutes les combinaisons qu'on peut expérimenter. J'ai fait des licences avec des labels indie, j'ai fait des coprod, j'ai fait des distributions, j'ai fait des trucs bricolés, et puis après je fais tout moi-même une personne.
Donc c'est là que tu as l'envie, l'idée de créer ton propre label Black H.
Par nécessité, je n'adore pas ça. D'ailleurs, j'ai sorti Freeze Where You Are et j'ai produit et réalisé un album pour un autre artiste, Paddy Sherlock, qui s'appelle Dusk. Quasiment au même temps, et j'ai sorti les deux en deux versions physiques chacun, et j'ai défendu les deux en tant que backup chanteuse, manageuse, label, et puis pour mon propre album simultanément, j'ai frôlé le burn-out, quoi. Ouais. Je dois gérer encore les trucs fiscaux et paperasse pour ces deux trucs-là. C'est pour ça que j'ai fait les deux albums après que digital. Déjà, j'avais pas assez d'argent pour faire des objets, malheureusement, et deuxièmement, je peux pas faire ça, tout ça toute seule, c'est pas possible.
Alors, ça allait être une de mes questions sur cet album, sur ce label. Il y a beaucoup toi, mais il y a aussi en fait des gens.
Oui.
Ça veut dire que là, en fait, tu viens de répondre un petit peu à la question que j'allais te poser. C'est que j'allais te demander comment tu fais, parce que justement, tu viens de l'évoquer. C'est beaucoup de travail et à un moment donné, il faut arriver à rester peut-être focus sur soi-même.
Ouais.
Est-ce que tu te donnes à l'esprit une liberté possible pour un coup de cœur et un artiste, mais tu fonctionnerais peut-être différemment avec, je ne sais pas, l'embauche de collaborateurs pour s'occuper d'eux,
oui.
Vu que toi, tu ne pourrais peut-être plus et que tu n'aurais pas envie. Est-ce que tu te permets encore cette idée possible ou non, sincèrement, là, j'ai donné, je veux déjà m'occuper de moi et ce sera déjà très bien.
J'ai vraiment aimé l'album entier que j'ai produit pour Paddy Sherlock. Cette histoire était belle. Et justement, à la fin, je me suis dit, ouf, ça craint. Niveau boulot, quoi, niveau tonne de travail. J'ai eu un coup de cœur pour une artiste après. Et malgré moi, je l'ai signé. Et en fait, ça s'est tourné en caprice de jeune artiste. Et du coup, je suis un peu écœurée pour l'instant. Je pense que même un coup de cœur, je poserai beaucoup de questions avant de foncer comme j'avais fait. Parce que même sur cette histoire-là, j'ai perdu 1 an et 4 000 euros et beaucoup de larmes pour rien. Parce que c'est une jeune artiste féminin auquel je voulais donner tout ce que j'ai pas eu à son âge et toute mon expérience, mon carnet d'adresses, mon réseau, ma protection. Je voulais lui expliquer tout, être limpide et tout. Et Et puis surtout, je voulais faire son album qui allait être sublime. Et puis, bon, j'étais très déçue. Donc non, je ne foncerai pas sur un coup de cœur.
Je te comprends. Merci de cette explication de texte. Et tu as été très respectueuse de ne pas la citer.
Oui.
Voilà. Là, la suite pour toi, parce que tu es à l'international, toi la californienne, mais qui maîtrise un français parfait. Il y a d'autres langues comme ça que tu maîtrises ?
Non, non, malheureusement.
C'est déjà, c'est très bien. Tu t'expliques tellement bien dans notre belle langue. La suite pour toi ou les projets en cours, c'est quoi ? Ça va être la sortie justement de tes nombreux albums ou ça va être de défendre des choses sur scène ? C'est quoi la suite ?
J'ai des projets en cours qui sont où j'ai des rôles différents. J'ai joué à Deauville il y a une semaine un projet sur Dylan, Bob Dylan.
D'accord.
Où j'ai incarné Bob Dylan et ça c'est un projet qui risque d'avoir d'autres dates. C'est un ami, un musicien et écrivain et photographe, Nicolas Comon, qui a sorti un livre sur Dylan. Et on a formé un spectacle autour du livre avec mon bassiste Jeff Hallam et puis Nicolas Comon.
Tu as pris plaisir à le faire ?
Oui. Au début, en fait, il m'a un peu menti sur la marchandise au début parce qu'il m'a dit « Ah, tu veux pas faire quelques morceaux Dylan avec moi ?» Moi, j'étais là « Ouh, choisir quelques morceaux Dylan ?» Finalement, c'est genre 12 morceaux que je ne connais pas, que je ne peux pas choisir, que lui, il impose à travers son bouquin. Mais je suis contente à la fin parce que ça m'a fait découvrir des morceaux que je n'aurais pas découvert et même... Peut-être que c'était plus facile de les approprier si je ne les connaissais pas trop avant. Ah oui, je t'entends pas, mais... alors, il y avait This Wheels on Fire, Roll on John, Dreamed I Saw St. Augustine, Ballad of Thin Man, Watchtower, Sad-Eyed Lady of the Lowlands, I Want You, Sarah, Don't Think Twice... Et je dois oublier.
Oui, je t'en prie déjà de tête, tu nous en sors 50, bravo.
Ah ouais, merci.
Mes respects.
Bah, c'était une semaine, donc ça aide. Oh. Donc je fais ça. Oui. Là, ce soir, je vais jouer avec un pianiste avec qui je n'ai pas encore joué. Ça D'accord. va être une première.
Un français ?
Elle vit en France, mais elle est de la Roumanie.
D'accord.
Et avec elle, je vais faire que du jazz à deux à Paris, là, bientôt. Entre-temps, j'ai écrit un roman à quatre mains, donc avec un autre écrivain qui s'appelle Merle Léonce Bonne, et on sort ce roman en janvier sur Le Boulon, qui est une maison d'édition qui est spécialisée sur la musique, mais qui va s'ouvrir au roman avec notre roman. Donc
ça, c'est excitant. Ça, c'est chouette.
Ça, c'est trop cool. Et puis, je fais un album avec mon amoureux, Nicolas Leroux, qui était Overhead. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se souvenir de ce groupe.
Manu ? Ouais, prends le micro et dis-moi deux secondes. C'est un groupe,
qui a fait pas beaucoup d'albums, je crois.
C'est ça, oui. Okay. Après, il a changé son nom, c'est devenu Fugitive Kind. Mais au début, c'était chez Naïf et il y a eu un moment, c'est... il a une voix un peu aiguë,
ouais.
Jeff Buckley-esque. Et donc nous, on écrit ensemble. Et puis, j'ai un projet très expérimental, mystère, que j'ai fait avec quelqu'un qui est ici ce soir. Mais je ne peux pas dire
ce que c'est.
Mais c'est très expérimental, ça m'a fait beaucoup de bien. Un album entier en deux mois, bam, bam, bam. Et donc on va voir comment on défend ça, mais on a toute une idée sur le live qui va être fabuleux si on arrive à le monter.
Ça ne doit pas être simple de te programmer, Brisa, parce qu'on dit pour quoi sur scène ? On choisit quel registre ? On choisit.
Ouais.
Est-ce que tu en arrives maintenant à dire j'ai envie de jouer ça ?
Non, en fait, à vrai dire, c'est assez compliqué de tourner aujourd'hui.
D'accord.
Je n'ai pas de tourneur, je n'ai pas d'équipe promo qui va rassurer des tourneurs, qui va rassurer des salles de spectacle. Je n'ai pas des ventes d'albums énormes avec des affiches partout qui rassurent des gens. Le monde de... En fait, j'ai eu beaucoup de mal à tourner pour, je dirais, mes quatre derniers albums, quoi. Vraiment galère. Donc, si je pouvais dire je ferais ça ou ça ou ça, et que des gens répondraient, ça serait un peu le paradis. En tout cas, j'espère qu'il y a une facilité à tourner qui va revenir.
Est-ce qu'on peut te retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux de Twitter, Insta, ouais, et un site internet qui va bien aussi, qui te présente très correctement. Brisarocher.com, c'est quoi?
Oui, c'est moi, mais bon, j'y vais pas souvent. Je dirais que Instagram, c'est quand même le plus direct. Je réponds le plus vite sur Instagram, et je poste aussi des dates de concert. D'ailleurs, la date donc à Paris, c'est le 28 mai au 38 Rivoli.
Merci beaucoup. Ce soir, accompagné du pianiste.
Oui.
Que tous les deux sur scène.
Non, il y a une troisième star. C'est une chanteuse incroyable qui est aussi ma meilleure amie et qui a été absente de la scène un petit moment parce qu'elle a un bébé qui est dans le château là.
D'accord.
Elle s'appelle Ellen Birat ou Little Ellen, et elle joue en ce moment beaucoup avec le Paris Jazz quelque chose.
Ouais.
Et elle a une voix incroyable, et vu qu'on est meilleurs amis, quand on chante ensemble, donc c'est ça qu'on va faire ce soir. On va faire des morceaux à moi, quelques covers à deux voix, et puis on va faire des standards de jazz à deux.
Classe.
Qu'on n'a jamais fait.
D'accord.
Jamais.
Elle m'a entendu.
On n'a même pas répété.
Donc,
ça va être la découverte pour tout le monde.
Ben merci beaucoup pour cette exclusivité.
Merci.
Et surtout, Brisa, merci pour ton sourire, tes explications. Ça donne vraiment envie de se pencher sur ta carrière, tes œuvres. Tu es fort agréable, ami auditeur, auditrice. Elle est ô combien sympathique. Merci, Brisa. Et moi, je suis persuadé que ta musique est à ton image.
Merci, c'est très gentil.
Elle jouera ce soir, on le rappelle, à 20h45, domaine du Quesnay. On est en direct, en lieu et en public. Du festival de Conches Différentes Cailles, deuxième édition. On va la libérer, il faut qu'elle se prépare. Et merci à vous de rester attentifs. On reste pas loin, nous, et on reprend l'antenne dans quelques instants. Merci,
merci
Brisa.
Merci infiniment. À tout à l'heure.
Là, je ne sais pas si on est retour en scène ou si c'est retour en scène, ou est-ce que c'est un petit peu de musique. Un petit peu de retour en scène, hein, MJC. Sur scène, musique, ou on passe quelque chose là, il y a un petit flou. On coupe. On fait un petit break et on se retrouve avec d'autres artistes maintenant autour de notre micro. Différentes Cailles, domaine de Conches, c'est précisément domaine du Quesnay à côté de Conches. On y est, venez les amis. Brisa Rocher, Johan Alcharton, Grant Lee Phillips et The Arabianettes. Dans la foulée.